Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Toujours à l'écoute du 88.3 à l'émission C'est factuel. Donc, on accueille maintenant notre premier invité, donc Christian Savard, qui est directeur de Vivre en ville. Comment allez-vous?
Ça va bien, et vous?
Ça va très bien, merci. Aussi. Donc, votre organisme, il lance une grande tournée médiatique pour présenter les 12 travaux collectivités à travers le Québec. Si on se concentre sur la région de l'Estrie, quels sont les enjeux les plus urgents auxquels les municipalités doivent s'attaquer dans les mois ou les années à venir?
Vous savez, les enjeux sont semblables un peu partout, mais c'est sûr qu'il y a des différences entre la Gaspésie, par exemple, une région comme Montréal ou l'Estrie. Mais il y a quand même quelques lignes de force là, que j'aimerais mentionner. Ben, juste souligner d'entrée de jeu que cette opération-là, là, cette petite tournée qu'on profite du milieu de l'été quand les gens ont un peu d'écoute, ça s'inscrit dans le cadre des élections municipales. Hein? Mm-hmm. Tout le Québec, là, toutes les villes du Québec qui vont avoir des élections cet automne. Et donc, on voulait donner des idées à tous les candidats, candidates là, qui vont se présenter puis qui, là, cet été, sont en train de se poser des questions sur ça va être quoi leur plateforme électorale. Et donc, nous, on a voulu leur donner des idées pour on a tenté de faire ça, de simplifier ça un peu parce que la Vivre en ville, on a beaucoup des idées. On a mis ça en 12 avec un clin d'œil là, aux 12 travaux d'Astérix ou aux 12 travaux d'Hercule, c'est ça.
Ouais.
Une ligne de force là, qui peut un peu venir, parce que je ne les nommerai pas les 12 de manière exhaustive, mais une ligne de force, là, c'est vraiment toute la question qui touche l'habitation. On le sait, les loyers coûtent de plus en plus cher, les gens ont des fois même pas accès, ont pas d'options parce que c'est devenu de plus en plus rare. Hein, dans le jargon, on dit le taux d'inoccupation est très bas. Donc ça veut dire qu'il y a peu de disponibilité, ce qui donne le gros bout du bâton aux propriétaires qui peuvent louer à peu près au prix qu'ils veulent parce que les gens ont pas le choix. Donc pour nous, une des choses qu'il faut faire, là, c'est vraiment se concentrer. Les villes doivent accélérer le pas pour qu'on puisse construire plus de logements. Plus de logements pour que les gens aient plus d'options puis que ça ralentisse un peu la pression, là, que ça amoindrisse la pression sur les prix. Et ça, ce qu'on dit qui est important, puis là, où est-ce qu'on peut, comme je le dis, que c'est un peu fédérateur comme enjeu, c'est qu'on peut aussi donner une connotation environnementale à cet objectif-là. Parce que, ben, initialement, fournir du logement aux gens, on pourrait dire, ben, c'est pas environnemental, mais on peut y donner même une connotation environnementale en disant, faut pas le construire n'importe où, faut pas le construire dans les milieux naturels, faut pas construire sur les terres agricoles, faut le construire là où il reste de la place dans nos villes. Puis il y a des endroits là dans nos villes, on a tous ça là, dans nos têtes là, dans que ça soit à Sherbrooke ou que ça soit dans les plus petits villages autour, les petites villes, des terrains vacants, des vieux bâtiments commerciaux qui se passe plus grand chose. Il faut appuyer sur l'accélérateur pour développer ces terrains-là. Parce que tout est déjà là.
Ben c'est ça,
donc, ça vient comme une manière de construire sans détruire.
Parce que c'est l'un des 12 points, de s'assurer que chaque terrain soit utilisé à son plein potentiel. Comme vous le dites, c'est un peu un guide, dans le fond, que vous offrez aux municipalités pour pas mieux s'aligner, mais pour peut-être regarder quelles seraient les priorités à avoir dans leur mandat?
Exactement. C'est vraiment ça. Et on s'attarde beaucoup, nous, parce que c'est notre spécialité, mais on pense que ça a beaucoup de potentiel sur comment on développe la ville, comment on développe le territoire de la ville, ou que parfois on le protège. Hein, comme un des 12 travaux, c'est protéger les milieux naturels et agricoles. Donc, on se concentre vraiment là-dessus pour tenter de, à la fois remplir des objectifs sociaux, par exemple en matière de logement. Un de nos travaux, c'est oui, il faut construire plus de logements, mais il faut construire aussi plus de logements à but non lucratif. Donc, les organisations qui construisent du logement social, des coopératives, des logements qui sont un peu protégés là, de la spéculation immobilière. Ça, les villes peuvent fournir des terrains pour ce type de projet-là, ce genre de choses-là. Mais également, ne pas négliger l'aspect environnemental, réduction des gaz à effet de serre, donc des bâtiments qui émettent pas de gaz à effet de serre, mais également, vraiment essayer de trouver des solutions à plusieurs problèmes à travers les défis qu'on pose, les propositions qu'on fait.
Oui, bien, un autre enjeu, c'est le transport collectif interurbain et régional qui est souvent mentionné comme une faiblesse dans les communautés plus éloignées, même si, par exemple, à Sherbrooke, pour se rendre à Magog, c'est relativement limité. Quelles actions concrètes peuvent être prises par les entreprises, les élus municipaux pour améliorer la mobilité durable à l'échelle de la région?
Vous avez tout à fait raison que et l'Estrie, c'est pas la Gaspésie là. Il y a une certaine, il y a Sherbrooke, qui est quand même une assez grande ville, plusieurs villes moyennes comme Magog. Ils sont effectivement mal reliés entre elles. Il y a une des choses qu'ils peuvent faire, c'est prendre une partie du budget municipal puis dire on va investir dans le service. Mais une des choses à faire, c'est aussi en parler et aussi dire au gouvernement du Québec, ben l'argent doit pas juste aller à Montréal, Québec, Gatineau, il doit en rester pour les transports interrégionaux pour développer le service. Actuellement, c'est ça aussi ce que ça peut faire un élu municipal si ça n'a pas tous les outils entre ses mains, c'est faire les représentations au niveau des paliers supérieurs du gouvernement, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, pour investir dans ce genre de choses-là. Puis effectivement, Sherbrooke, Magog, ça devrait se faire relativement plus facilement en transport en commun. Donc, il va falloir faire des investissements.
Vous proposez entre autres aussi là, de renforcer les centres-villes puis les noyaux villageois pour ici en Estrie, comme vous l'avez mentionné, beaucoup de villes moyennes ou même de villages. Qu'est-ce que ça amène à une communauté d'avoir un centre-ville fort?
D'abord, d'avoir des commerces de proximité, ça fait en sorte qu'on n'est pas obligé de rouler des dizaines de kilomètres pour avoir accès à des choses. Donc, garder un minimum de commerces de proximité et justement à proximité des gens, souvent dans le centre-ville ou le noyau villageois, est aussi souvent une bonne idée. C'est une manière aussi parfois de protéger le patrimoine, que ces lieux-là soient dynamiques. On a souvent des beaux bâtiments. Donc, ça aussi, c'est important. Mais c'est vraiment encourager la proximité, de pouvoir avoir une vie de proximité qui ne me rend pas dépendant de grands déplacements en voiture pour absolument tout faire. Donc, un centre-ville fort, c'est à la fois un certain dynamisme pour une collectivité. Ça donne des services aux gens. Mais ça peut même avoir des effets positifs au niveau de l'environnement parce qu'on a moins besoin d'utiliser la voiture ou on roule moins longtemps. Donc, c'est vraiment un aspect important. Puis on aime tous être fiers de notre ville puis de notre centre-ville. Puis quand ils sont en dévitalisation, ben ça fait des communautés moins intéressantes aussi. Donc, c'est aussi important quasiment d'un point de vue de l'identité là, et de l'image que peut projeter une collectivité.
Oui, bien, parlant de transport automobile, dans vos tous travaux, vous abordez la nécessité de verdir les milieux de vie et de récupérer les espaces, entre autres, limitant des stationnements. Comment est-ce qu'on s'attend à ce que ce message soit reçu dans les régions où la voiture est encore prédominante?
J'aurais tendance à dire que parfois, on aime ça avoir beaucoup de stationnement. Et c'est particulièrement vrai. Là, sur le plateau Mont-Royal à Montréal, peut-être que c'est vrai qu'il en manque vraiment. Là, où c'est plus difficile. Mais souvent, on a une espèce de dire « on va en avoir beaucoup, on va être bien, beaucoup de stationnement ». Mais ça, on le fait souvent au détriment de d'autres choses. Des fois, c'est des terrains qu'on pourrait développer autrement, par exemple, avec des logements. Mais c'est souvent aussi des endroits assez aride, hein? On parle d'îlots de chaleur, une grande plaque d'asphalte là, on a chaud là. Donc il faut remettre en question de dire qu'on va en mettre partout puis en récupérer une partie de cet espace là pour faire du verdissement. Ça peut être du verdissement, par exemple, dans certains cas sur nos rues principales, ça peut être élargir le trottoir. Est-ce qu'on a besoin de toutes les places de stationnement? Je pense que dans les villes, par exemple, dans une région comme l'Estrie, il y a des remises en question qui font même pas mal et qui seront même pas difficile que ça, juste avec un peu d'innovation, d'imagination, puis un peu de gestion des espaces. Je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup, donc, pour verdir. Puis le verdissement, ça a plein d'avantages. C'est beau, d'entre Dieu. Et deuxièmement, mais ça permet de rafraîchir l'atmosphère. Les arbres apportent de l'ombre. Et c'est même une manière de gérer les eaux de pluie. Vous avez vu les pluies torrentielles qui ont causé des dégâts dans certaines villes. Plus que nos villes sont vertes, plus que le sol peut absorber d'eau, ben, c'est de l'eau qui ne se retrouve pas dans nos sols. Donc, c'est aussi important de verdir nos villes pour cette raison-là aussi.
Donc, vous avez cette liste-là, mais à quelle, on va dire... Quelle échelle est-ce que vous mobilisez ou vous faites pression justement avec ces 12 travaux-là? Est-ce que ce sont plus à l'échelle individuelle, conseillers municipaux, conseils de ville, mairie, ou est-ce que c'est même au niveau des MRC ou l'Union des municipalités? Comment se passe votre mobilisation à ce niveau-là?
Nous, ce qu'on veut, c'est les mettre au jeu pour que un maximum de candidates surtout, aux prochaines élections, s'en empare en toute ou en partie et l'insère dans leur plateforme. J'aurais tendance à dire que Vivre en ville, on a quand même une petite renommée dans le milieu des municipalités, donc j'ose espérer que certaines choses vont percoler, vont être pris. De manière générale, on a quand même une bonne écoute. On reçoit des appels. Il y a des gens qui sont intrigués. Il y a des gens qui voudraient savoir comment ils pourraient adapter ça dans leur plateforme. Donc, les choses vont bien. Puis, je pense que c'est des choses aussi qui... Il y avait un sondage de Léger dernièrement qui montrait les préoccupations des gens par rapport aux prochaines élections municipales. Puis il y avait deux enjeux qui ressortaient. D'abord, le premier, c'était l'habitation. Mais le deuxième, un autre qui ressortait fort aussi, c'était la protection de l'environnement. Donc, nous, on s'attend aussi à ce que les candidats prennent... Tu sais, on sait ce qui se passe aux États-Unis, Donald Trump, lui, l'environnement, le changement climatique, ça n'existe pas. Donc, nous, on espère aussi que les candidats là assument un certain leadership pour dire oui, l'environnement, c'est important, oui, la lutte contre les changements climatiques et l'adaptation, c'est important, et on va continuer à en parler malgré le contexte difficile.
Est-ce que c'est la première fois que vous procédez à ce type d'opération, ouais, c'est ça. Puis comment ça s'inscrit dans le mandat, dans la mission de Vivre en ville?
Ben nous, on tente d'aider toutes les gens de bonne volonté qui tentent de faire des changements positifs dans leur collectivité. On l'avait fait la dernière fois, mais je dirais de manière un peu moins systématique. On a organisé un webinaire que les gens peuvent aller écouter. On a rendu, disons, les propositions un peu plus faciles d'approche, les 12 travaux, un clin d'œil. Je dirais que si je regarde la dernière cohorte d'élus municipaux, je ne sais pas si on a joué un rôle là-dedans, mais il parle beaucoup plus des enjeux qui sont, par exemple, dans nos 12 travaux qu'il y a 12 ans ou il y a 8 ans. C'est vraiment quelque chose là qui a pris le haut de la scène. Avant là, on se contentait de gérer la ville, ramasser les poubelles, faire un service des loisirs, puis ça allait bien. Là, les villes ont plus de responsabilités, ont plus de choses à faire, on peut faire davantage. On a compris qu'il y avait un plus grand pouvoir et qui était finalement les gouvernements de proximité les plus proches des citoyens et qui pouvaient faire un changement. Donc, je trouve qu'il y a une belle progression là dans la prise en compte de ce genre des enjeux qu'on propose à travers nos 12 travaux là chez les élus municipaux. Donc, les choses vont bien. On voudrait toujours que ça aille plus vite, mais somme toute, ça progresse. Ouais.
Bon, mais merci beaucoup, Christian Savard, directeur de Vivre en ville, qui a discuté avec nous du vol estrien, des 12 travaux des collectivités. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Bonne journée.